explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Le temps d'un bivouac.
Mais qu'est-ce que c'est que ce pays où les cascades remontent vers le ciel et où les lacs se déplacent? François Garde s'est posé la question alors qu'il effectuait la traversée à pied de l'île principale des Kerguelen. Pendant 25 jours, l'écrivain, accompagné de trois amis expérimentés, a parcouru du nord au sud cette île déserte de l'océan Indien aux confins des 40e rugissants. Seul, dans la pluie, le vent et le froid, la petite équipe a évolué en l'absence de tout sentier, au milieu de paysages sublimes que peu d'humains ont parcouru. Ce territoire découvert en 1772 par Yves Joseph de Kerguelen est resté avant tout le royaume des albatros, des manchots et des éléphants de mer. Dans un livre paru chez Gallimard intitulé « Marcher à Kerguelen », illustré par les photographies de deux de ses compagnons d'expédition, Michael Charavin et Bertrand Lessor, François Garde raconte comment s'est déroulée la traversée de cette île qui était devenue pour lui une obsession. Cet après-midi, il nous emmène bivouaquer à la lisière du monde dans un décor digne de Tolkien à Kerguelen. Et en fin d'émission, nous plongerons à la découverte des requins. Aucune inquiétude à avoir, nous serons en compagnie d'un spécialiste, le biologiste Johan Mourier. Voilà pour le programme du jour. Cette émission est réalisée par Hélène Couillou-Mjean et Étienne Bertin et préparée par Claire Tesser. Avec à la technique, Julien Dumont. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé. Oui.
À droite, 10. La barre est 10 à droite. 0. Ouais. Barre à 0.
Le voilier commandant à tout bord.
Ouais, tiens.
Les sirènes du Marion Dufresne viennent de retentir. Le navire quitte l'île de la Réunion pour aller ravitailler les TAF, les terres australes et antarctiques françaises du sud de l'océan Indien. Bonjour François Garde.
Bonjour.
Vous l'avez pris régulièrement, hein, ce bateau, le Marion Dufresne, lorsque vous étiez administrateur supérieur des TAF de 2000 à 2004. Dans quel état d'esprit étiez-vous lorsque vous quittiez l'île de la Réunion à bord de ce navire en mettant le cap vers ces terres très lointaines, isolées?
Quand on quitte la douceur de la Réunion, sa musique, sa gastronomie, la vie de famille, le bureau, etc., et qu'on embarque sur le Marion Dufresne, on a le sentiment d'avoir passé un seuil. On ne sait pas ce qui va se passer. La traversée va-t-elle être calme ou agitée, ou très agitée?
Ouais, hein, elle est souvent agitée, j'ai l'impression.
Elle est parfois très, 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 très agitée. Hein. Je me souviens de m'être cassé la figure dans la douche de ma cabine parce qu'il y avait une vague de 17 mètres. Hein, ouais. Donc c'est quand même assez costaud. Mais on ne sait pas ce qui va se passer. Mais voilà, la sirène du bateau qui dit au revoir à la Réunion, c'est quand même l'appel de l'aventure. Quoi. Ouais. Et pour moi, c'est un appel auquel, évidemment, il est impossible de résister.
Ouais. Alors, ces territoires, les terres australes et antarctiques françaises, quels sont-ils exactement?
Alors, il y a d'une part la Terre Adélie sur le continent antarctique, qui a un régime particulier, et puis Crozet, Kerguelen et Amsterdam, qui sont donc dans le grand sud de la Réunion, à peu près à mi-distance entre la Réunion et le continent antarctique. Donc, Kerguelen, c'est 49 degrés sud, donc c'est les 40e rugissants, voire les 50e hurlants.
Oui, hein, oui, on n'est pas loin des 50e hurlants. Voilà. Et alors, entre l'archipel Crozet, les îles Kerguelen, les îles éparses hein, de l'océan Indien, Vous étiez administrateur de l'ensemble, mais quand même, les Kerguelen avaient une place à part dans votre cœur. Hein. Vous avez toujours eu, pour ces îles, un lien, une aimantation. Hein. Vous dites aimanté par Kerguelen.
Bah, tout simplement parce que Crozet et Amsterdam, ce sont des archipels et les îles sont relativement petites. Crozet, en une très grosse journée de marche, vous traversez l'île principale. Amsterdam aussi. Alors que Kerguelen, c'est grand comme la Corse. Donc, on peut pas tout connaître. Il y a cette dimension. En même temps, le fait que pour des raisons de géologie que je suis incapable de vous expliquer, les paysages sont assez différents selon les péninsules. Et donc, on chemine et puis on passe d'un paysage plus rond à un paysage plus aigu. Il y a des fjords, il y a des glaciers. Enfin, on sait jamais ce qui va nous attendre. En plus, ce qui est quand même très agréable, c'est que les cartes sont presque fausses. Donc, oui. Du coup, on a parfois des surprises. Il faut prendre des décisions. Donc, c'est vraiment la capacité d'être dans une vraie aventure que n'offrent pas les autres îles parce qu'elles sont trop petites.
Ouais. Cette île grande comme la Corse, hein, vous venez de le dire, pas un seul arbre n'y pousse. C'est un paysage assez incroyable. Décrivez-nous un petit peu.
Alors, l'élément le plus fort du paysage, c'est le vent. Ouais. Paradoxal parce qu'on le voit pas, mais c'est lui qui est en permanence qui vous occupe. Mais sinon, selon les endroits, ce sont des lacs, ce sont des vallées glaciaires, donc avec des lacs tout en longueur. Il y a une calotte glaciaire centrale qui descend sur ses différents émissaires vers la côte. Il y a des péninsules, il y a des plages de sable noir, il y a une activité volcanique qui a laissé des traces dans le paysage, donc il y a des sources chaudes, où il y a aussi une espèce de bulle de gaz pétrifiée. Donc tout ça, oui, vous disiez Tolkien tout à l'heure, j'y avais pas pensé, mais effectivement, c'est un peu les images qu'on se fait.
Mais si vous y avez pensé, le Tolkien, c'est dans votre ouvrage. C'est vous qui faites référence. Je m'inspire uniquement de ce que vous avez écrit, voyons. Cette île est déserte. Il y a quand même une petite base scientifique, une capitale lilliputienne, mais les humains n'y font que passer.
La capitale s'appelle Port-aux-Français et il y a entre 80 et 120 hivernants qui sont là pour, selon leur mission, 6 mois, 1 an, 15 mois, mais jamais plus. Donc tout le monde est là avec un sentiment d'avoir accès à une espèce de paradis et que de ce paradis, on sera un jour chassé. On peut pas s'y établir.
Ouais.
C'est évidemment une population plutôt très jeune. La moyenne d'âge doit être inférieure à 30 ans. Beaucoup plus de garçons que de filles et une ambiance de gens qui ont envie de profiter de leur expérience et donc des gens pleins d'énergie, pleins de feu, parfois un peu trop quand vous êtes en situation de responsabilité, on a envie de les calmer un peu.
Ouais.
Mais la base, elle est sur au fond du golfe du Morbihan, tout à fait sur une extrémité de l'île. Donc elle est pas centrale. Donc du coup, quand vous faites la traversée du nord au sud, vous êtes toujours en permanence à 30 ou 40 kilomètres de la base, au moins.
Alors François Garde, après votre expérience en tant qu'administrateur de ces terres pendant 4 ans, vous êtes devenu écrivain officiellement puisque votre premier roman est paru en 2012. Et dans vos livres, on sent, en filigrane, Kerguelen n'est jamais très loin, on sent que cette île a continué à vous hanter.
Oui, il y a des petites allusions dans tel ou tel de mes livres que personne ne détecte, mais peu importe, je me fais plaisir à parler d'Albatros ou d'îles où il n'y a pas d'arbres. Enfin, oui, parce que voilà, il y a des lieux qui vous marquent et qu'on aime bien retrouver. C'est le cas également pour la Nouvelle-Calédonie, qui est aussi très chère à mon cœur. Et voilà, c'est des endroits où je me sens chez moi et je me sens toujours à deux doigts d'une aventure.
Ouais, à tel point que vous avez eu envie d'y retourner. Ça vous a pris du temps de monter cette petite expédition. Il y avait un prétexte, une fois devenu écrivain, y aller pour écrire un livre, il fallait ce prétexte.
Ah oui, parce que on n'y va pas, tout simplement.
Ouais.
Avoir 4 pèlerins qui sont perdus au milieu de la pampa, pour l'administration, c'est un risque que ça se passe mal, et à ce moment-là, on demanderait des comptes. Donc, le risque était, si je puis dire, compensé par il faut qu'il y ait un retour.
Mmh.
Et le retour, c'était la perspective de faire un livre. Mais je n'avais jamais écrit de livre de marche, je ne savais absolument pas comment j'allais m'en tirer.
Ouais.
Et le premier soir, sous la tente, j'ai pris mon carnet noir, et j'ai écrit 2 paragraphes. Et je me suis dit, waouh, je suis pas encore dans la jauge pour sortir un bouquin à la fin.
Ouais. Ah, le résultat est à la hauteur des attentes. D'autres avant vous l'avaient fait, hein, très peu. Isabelle Autissier, en 1999, avait fait cette traversée de Kerguelen.
Absolument, nous avons été la première intégralement masculine.
Ah, voilà, c'est ça, c'est votre première à vous. Alors la navigatrice Isabelle Autissier, elle est aussi tombée sous le charme des îles Kerguelen dans des circonstances particulières qu'elle racontait sur France Inter en 2006. Au micro d'un certain Mathieu Vidard.
En 94, j'étais en tête de la course autour du monde en solitaire et j'ai dématé. Et donc, je suis arrivée à Kerguelen sous gréement de fortune pour m'abriter dans une baie et, on va dire, refaire un petit peu un gréement pour pouvoir continuer ma route vers l'Australie. Mais c'est vrai que moi, j'ai été absolument estomaquée par cet endroit. Bon, c'est très austère, hein. Faut aimer la nature, on va dire, un peu forte. on se sent sur le monde, on se sent très loin. La première Terre, elle est à 3 000-4 000 kilomètres, quoi. Donc c'est vraiment très isolé. C'est quelque part très beau, mais en même temps, c'est une nature qui, comme ça, peut paraître hostile. Et moi, je trouve que on arrive à comprendre qu'il y a une harmonie dans cette nature-là, quoi. Que finalement, ça fonctionne très bien. Les oiseaux vont nicher, les mammifères marins sont là. Et je crois que c'est un peu cette ambivalence entre quelque chose de très rude et en même temps un albatros au nid, c'est absolument extraordinaire, quoi. Et c'est très juste aussi de dire qu'on a l'impression que c'était comme ça il y a 15 000 ans. C'est pas tout à fait vrai, mais on a ce sentiment vraiment d'une espèce d'éternité, en fait, de la nature. Et bon, ça vous remet aussi un peu à votre place, quand même.
François Garde, vous partagez avec Isabelle Autissier cette idée que cette île nous remet à notre place.
Oui, l'île, elle n'est pas hostile, hein. Elle est tout court. Ouais. C'est nous qui passons, c'est nous qui sommes de passage. C'est à nous de nous adapter et de nous préparer pour affronter les difficultés de la progression dans ce terrain. Mais Isabelle Autissier a tout à fait raison. C'est ce sentiment d'éternité. Comme elle le dit, on voit des paysages qui n'ont pas changé depuis le jour où un jeune officier de l'expédition de Kerguelen a mis les pieds à terre, et donc probablement depuis beaucoup plus longtemps. Et on a un sentiment en même temps que toutes les journées sont pareilles. Il y a le cycle de la vie qui s'accomplit, on voit des animaux morts, des poussins, des adultes, et tout ce monde-là n'a pas peur de l'homme. Donc quand vous traversez, enfin on essaie de pas traverser, mais parfois on est bien obligé, faut pousser avec la pointe de la botte pour arriver à se faire un chemin, parce que les oiseaux, les mammifères marins, n'ont pas peur de nous, ils sont juste très étonnés.
Ça, vous l'aviez bien compris quand vous étiez administrateur de ces lieux, hein, vous l'écrivez, vous feignez tant bien que mal d'être cet administrateur, mais au fond de vous, vous sentiez plutôt vice-roi des albatros, proconsul des îles froides, connétable des brumes, procurateur des manchots royaux. Ça rend humble d'avoir à administrer de tels lieux.
Alors, il ne faut pas donner à la poésie une place qu'elle ne mérite pas. J'avais quand même pas un emploi fictif, et j'avais un budget de l'argent public à gérer.
Et j'ai fait de mon mieux. Vous gâchez tout.
Et j'ai fait de mon mieux. Non, mais c'est important de le dire. On va pas là-bas pour s'amuser ou voilà. Mais effectivement, une fois qu'on a fait ce pourquoi on y va, ce pourquoi on est payé, oui, il faut que la poésie puisse se déployer. Et moi, j'étais très frappé quand j'y suis allé escalité. Mes prédécesseurs restaient tous sur la base de Port-au-Français. Et je lui dis, mais non, moi en plus j'adore la marche, donc je vais aller marcher, je vais aller incarner la souveraineté de la République française dans des coins où de toute façon il n'y a personne, c'est pas grave. Mais voilà, la souveraineté de la République, c'est pas simplement sur la base de Port-au-Français.
Alors
c'est
là, partout. Vous aviez fait des petites incartades, hein, vous aviez effectué des marches de quelques jours dans cette île. Cette fois-ci, vous partez pour 25 jours, le grand jour du départ arrive. On ne peut aller à Kerguelen qu'en bateau, hein, il n'y a pas d'aéroport, donc vous prenez le Marion Dufresne, un hélicoptère vous dépose à l'extrême nord de l'île pour une grande traversée qui doit vous amener ensuite à pied à l'extrême sud. Dans quel état d'esprit vous étiez ? Vous parlez à la fois d'une joie intense et d'une trouille immense également au moment où l'hélicoptère repart et que vous êtes avec vos trois amis à l'extrême nord.
Oui, une joie parce que c'est un projet auquel j'ai travaillé pendant plus de 3 ans. Donc, où on imagine, on téléphone, on monte un budget, on convainc Gallimard, etc., etc. Tout ça, c'est pas très fatigant, mais il faut quand même le faire. Et puis, tant que vous n'avez pas tous les feux verts qui s'alignent, on n'est pas sûr de partir. Donc, enfin, ça commence. Donc là, effectivement, après 3 années de préparation, ça y est, on y est. Puis, en même temps, quand l'hélicoptère s'en va et que vous vous retrouvez tous les quatre sur cette terre nue, avec une falaise, et puis quelques cailloux, et puis une pente douce qui va vers un lac, vous vous dites, d'abord, si je veux prendre une douche chaude, c'est dans 25 jours. Mais surtout, est-ce que j'ai la capacité physique de le faire? Parce que, est-ce que nous allons rencontrer des difficultés que nous aurions sous-estimées?
L'objectif est de traverser en 25 jours cette île grande comme la Corse. Aucun sentier, la pluie, le vent, le froid. Vous allez nous raconter votre expédition et ces paysages que peu de gens ont vu avant vous. Couvrez-vous bien, cet après-midi, François Garde nous emmène à Kerguelen, le temps d'un bivouac sur France Inter.
When winter comes and food is scarce, we'll want our toes to stay indoors. When comes. Must fix the fence by the acre plot. Two young foxes have been nosing around. The lambs and the chickens won't feel safe until it's done. I must dig a drain by the carrot patch. The whole crop spoils if it gets too damp. And where will we be with an empty store when winter comes? When winter comes and food is scarce, we'll want our toes to stay indoors. When summer's gone, we'll fly. Comes. I must find the time to plant some trees in the meadow where the river flows. In time to come, they'll make a shade for some poor soul. When winter comes and food is scarce, we'll want our toes to stay indoors. When summer's gone, comes and find the sun when winter comes.
C'était When Winter Comes de Paul McCartney et Anderson .Paak sur France Inter.
Tandis qu'Agnès et moi progressions péniblement, kilomètre après kilomètre, sur ce terrain encombré de rochers, j'embrassais du regard le paysage alentour dans sa grandeur solitaire et désolée, et une fois encore, je tombais sous son charme. La nature avait dû autrefois y connaître de profonds bouleversements, et Kerguelen avait dû être un des chaudrons des premiers âges du monde, à l'époque où la Terre s'était formée dans les entrailles du temps. De rares étangs et un beau lac, aux eaux vertes et limpides, marquent le milieu de l'isthme. Après comme avant, ce ne sont que de fastidieux champs de pierre jusqu'au rebord du plateau que termine une brusque descente sur une large vallée rejoignant un fjord. Je pensais tomber sur l'anse du Vulcain, mais nous aboutissons à Port Kirk, qui est notablement plus à l'ouest. La carte est donc à modifier complètement, ici comme en beaucoup d'autres points du reste.
Récit de l'exploration de l'archipel des Kerguelen par le navigateur Raymond Rallier du Baty, qui s'est rendu au début du XXe siècle sur ces terres au sud de l'océan Indien. François Garde, quand vous avez traversé à pied l'île principale des Kerguelen en 2015, vous aviez le sentiment de marcher sur les traces d'explorateurs d'hier, sur une terre qui n'avait pas changé depuis leur passage?
Non, j'ai eu le sentiment de marcher sur une terre sans mémoire. Il n'y a pas de tradition orale, il n'y a pas de peinture sur les rochers, il n'y a pas une vieille dame que vous pouvez interroger en lui disant « je passe par ici ou je passe par là ». Donc quand vous arrivez au fond, vous remontez une vallée, il y a deux cols qui ont l'air d'être équivalents, suite droite, suite gauche, ben on en choisit un et puis si c'est pas le bon, on redescend et puis on remonte l'autre. Donc une terre qui n'a pas de mémoire, c'est tout à fait étonnant et ça participe aussi à ce sentiment d'éternité. Ouais. Nous ne sommes que de passage, nous sommes furtifs, nous allons repartir et l'île continue comme elle a toujours été.
Ouais, furtif, c'était un peu votre devise, ne laisser aucune trace. Bon, vous avez perdu votre bonnet à cause du vent, donc vous y avez laissé au moins votre bonnet, mais vous avez essayé de laisser le moins de traces derrière vous. On marche hors du temps quand on marche à Kerguelen.
On marche hors du temps. D'ailleurs, moi, j'avais fait cette expérience de ne pas emporter de montre et de me laisser, guider par les impératifs de l'estomac ou du sommeil ou voilà.
Ou des astres, le soleil.
Comme il y a beaucoup de nuages, les astres, on les voit pas souvent. Mais voilà, du coup, on est entièrement présent au moment où on est. Et mon Dieu, on mange parce qu'on a faim. Hein. Qu'importe qu'il soit midi, 13h, 14h, 15h, on mange parce qu'on en a marre, on a besoin de faire une pause. Et voilà. Donc, c'est ce sentiment d'éternité, moi, qui m'a accompagné. Et puis, cette lutte avec le vent en permanence. Ouais.
Alors, il y a ce vent, il y a aussi cette étrangeté liée au nom des lieux. Parce que, pour beaucoup, ce sont des noms évocateurs, soit des noms d'explorateurs, soit des noms de régions ou de géographies que l'on connaît, mais dans un ordre totalement différent. On a l'impression d'être dans une sorte de lieu imaginaire.
Voilà, donc vous avez un Luberon qui regarde vers le golfe du Morbihan. Enfin, c'est et ce Luberon, évidemment, ne ressemble en rien au Luberon auprès duquel j'ai grandi. Donc, on est aussi déstabilisé par ces noms qui ont l'air d'avoir été jetés au hasard sur la carte. Et puis aussi beaucoup de lacs qui ont des noms qui ont pour nom des prénoms féminins, des lacs Louise, Agnès, etc. Et puis des noms bizarres, un col du Théodolite. Voilà, donc on a l'impression, enfin, il y a un petit côté Tintin, quoi. Dans ces toponymes qui ont l'air d'avoir été mis par une bande de joyeux drilles qui se sont fait plaisir. Alors, c'est à la fois pittoresque et en même temps, ça vous renvoie à votre origine, c'est-à-dire au fait qu'on n'est pas d'ici, que ces noms venus de France métropolitaine n'ont aucun sens. Il y a une vallée de la Clarée, mais la vallée de la Clarée, elle est pas là. Enfin, donc du coup, c'est un mensonge. Ouais. Du coup, ça vous déstabilise presque.
Ouais. Et puis ce vent en permanence. Alors, c'est particulier parce que comme il n'y a pas d'arbres, il n'y a pas de végétation haute, les effets habituels du vent ne sont pas visibles. Mais par contre, vous les ressentez en permanence. Et même, ils s'annoncent. Vous dites une sorte de grondement qui annonce l'arrivée du vent, tel un TGV avant même qu'il ne se mette. Et dans ce cas-là, il faut se mettre en position pour ne pas tomber, parce que le vent est de cette force-là.
Hein. Le vent est de cette force-là, on peut se faire cueillir si on n'a pas bien verrouillé ses chaussures et ses bâtons de marche, on peut se faire cueillir par le vent, décoller sur 2 ou 3 mètres et la réception n'est pas garantie. Donc il faut effectivement faire attention. Le vent, quand il n'y a pas de vent, c'est 30 nœuds, et quand il y a du vent, c'est 60 ou 80. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est le seul endroit au monde où j'ai vu ça, où les cascades qui arrivent, qui chutent d'un plateau en basalte, elles commencent à tomber. Et le vent les prend, les tord et les renvoie vers le ciel. Ouais, j'ai jamais vu de pays où les cascades remontent.
Les cascades remontent au ciel. Et puis, autre bizarrerie, je le disais en introduction, les lacs se déplacent. Ça, c'est la surprise que vous avez eue à un moment sur le parcours. Le lac n'est pas à la place où il devrait être sur la carte.
Les cartes ont été faites pour l'essentiel dans les années 60. Ce lac était adossé à un glacier. Le glacier a avancé et donc il y a eu un jour, ça devait être quelque chose, où le lac a forcé le glacier et il s'est reconstitué un petit peu plus loin. Du coup, effectivement, lorsqu'on est arrivé, on regarde la carte et on était en train de marcher au fond du lac, ce qui est quand même une expérience incroyable. Et voilà, mais c'est des surprises comme ça, il y en a tout le temps. Et donc, il faut être en permanence aux aguets. Ouais. On peut pas s'abandonner à une certaine forme de confort ou d'automatisme. Ouais. Il se passe toujours des choses surprenantes.
Et puis la pluie, hein, c'est 50 nuances de pluie. La règle, c'est le mauvais temps hein, aux îles Kerguelen.
La règle, c'est le mauvais temps, oui. Ouais. Et la pluie, alors la pluie, la neige, le grésil, la bruine, le brouillard, les lacs, les tourbières, enfin l'eau partout dans le paysage. Et ma foi, j'ai fini par comprendre, il m'a fallu un peu de temps, qu'il y a deux manières de l'affronter, de faire avec. La première, c'est de l'affronter, mais on est toujours mouillé, donc voilà. Et donc la deuxième, la bonne manière, c'est de l'accepter et d'accepter d'être mouillé. Et ma foi, il fait 5 degrés, on a le pantalon trempé, mais on a chaud dans la partie du corps qui est protégée par le sac à dos, donc des fesses jusqu'au sommet de la tête. Et donc voilà, on accepte. Ouais. Alors, on accepte, personne ne nous a obligés à venir là.
Ah oui,
on accepte.
Ce qui est, on entend, des conditions un peu compliquées pour les humains, est un territoire de repos pour les animaux marins comme les éléphants de mer. Ce qui fait de Kerguelen un paradis pour les biologistes qui étudient ces animaux.
Et c'est un jeu perpétuel de lumière à Kerguelen. Pour moi, ça fait partie des derniers espaces quasiment vierges de la planète, où la nature a encore tous ses droits, où on peut vivre comme ça au milieu des animaux. Et donc, enfin, moi, j'ai toujours rêvé de ça, d'être parmi les animaux, avec des animaux qui n'ont pas peur de l'homme, enfin de les côtoyer au quotidien, de les regarder vivre. Et ça, c'est vrai que j'estime que c'est une grande chance associée à mon travail.
«
toutes ces phoques qui sont encore liées à la terre pour deux événements au cours de leur vie, c'est la reproduction et pour muer. Quand ces éléphants de mer sont à terre, ils ne bougent pas, ils sont là, ils passent leur temps à dormir. Et en effet, je crois que par rapport à la vie en mer qui passe, où ils n'arrêtent pas, c'est-à-dire ils nagent constamment, ils plongent constamment, ils reviennent à terre, je dirais que pour se reposer et renouveler leur pelage. Et c'est, je dirais, les seuls moments de détente qu'ont ces animaux au cours de l'année.
Christophe Guinet, biologiste au CNRS, suivi par une équipe de thalassins en 2007 à Kerguelen. Vous en avez vu hein, de ces éléphants de mer, François Garde, et ils vous ont ignoré superbement.
Ah oui, il y en a partout. Donc, il n'y a pas de difficulté à les voir. Les gros mâles sont un peu inquiets quand vous approchez des femelles. Pourtant, nos intentions étaient pures. Mais donc, ils commencent à faire des bruits bizarres. Donc, on s'écarte un peu des femelles. Puisque chaque mâle a un harem d'une quinzaine de femelles. Et voilà, il suffit qu'il n'y ait pas d'ambiguïté avec les autochtones et les choses se passent bien.
Ouais, alors, la faune autochtone de Kerguelen se situe surtout sur les plages. Hein. Ce sont donc les animaux marins, les mammifères, les oiseaux. Et puis, à l'intérieur des terres, on croise des mammifères que l'on pourrait être un peu plus surpris de trouver là. Ce sont en fait des animaux que les hommes ont invités plus ou moins volontairement à Kerguelen.
Oui, il y a quelques espèces de mammifères qui réussissent à faire leur cycle biologique à Kerguelen. Des rats et des souris, bien sûr. Des lapins qui ont été introduits par les Anglais au 19e siècle en disant « s'il y a un naufragé, le naufragé bouffera des lapins ». Les lapins ont fait de gros dégâts. Bon. Il y a aussi des rennes qui ont été introduits par l'administration. Et il y a aussi des chats. Ouais. Qui étaient des chats de compagnie, si je puis dire, et puis qui ont pris leur liberté, qui sont allés, qui font des gros dégâts sur les populations d'oiseaux, parce ouais. que les oiseaux ne nichent pas dans les arbres, puisqu'il n'y a pas d'arbres. Ouais. Donc les oiseaux ils nichent à terre. Donc vous mettez un chat au milieu, vous imaginez les dégâts. Ouais. Donc oui, il y a quelques populations de mammifères qu'on croise. Effectivement, quand vous croisez un troupeau de rennes avec 70 rennes qui galopent dans une vallée, qui galopent vers vous dans une vallée en soulevant de la poussière, enfin ouais. On se croirait dans un western.
Oui, quelque chose d'incroyable. Alors ces rennes, d'ailleurs, ils avaient été introduits sur un îlot, une île plus restreinte, et en fait ils ont traversé à la nage et ils se sont installés sur l'île principale.
C'est ça, l'administration avait testé deux expériences, des mouflons d'une part, des mouflons de Corse, et d'autre part les rennes. Et quand il n'y a plus assez à bouffer sur l'île sur laquelle ils étaient, l'administration avait oublié que les rennes ça nage, et donc les rennes ont traversé, sont allées sur la grande terre, et ce sont des gros animaux, donc leurs sabots percutent les sols et ils font des dégâts sur des sols qui sont généralement extrêmement fragiles.
Ouais. Nous poursuivons notre marche à Kerguelen avec vous, François Garde, le temps d'un bivouac sur France Inter. Il y aurait des louis d'or enterrés à Kerguelen, vous pensez même savoir où ils se trouvent, mais vous vous êtes bien gardé d'aller les déterrer, vous allez nous raconter pourquoi dans un instant. Wisdom of the ocean, mother dust, dirt, soil, glittering, mica flecks of broken down life, birth. While Mother Earth, while Mother Earth, here comes the ocean. prochaine. C'était She Keeps Bees sur France Inter.
À 7h, le soleil ayant dissipé la brume, je distinguais parfaitement la continuation des terres qui s'étendaient depuis le nord-est jusqu'au sud des caps. La brume vint nous dérober la terre et devint très épaisse. Le vent nous empêchait de nous éloigner de la côte et la mer était fort grosse. Et soudain, nous aperçûmes près de nous, au vent, une chaîne d'îlots ou de rochers sur lesquels les brisants s'élevaient plus haut que nos mâts. Il était prudent, avec ma mâture trop peu solide, de m'éloigner de terre et de reconnaître avant la nuit un passage entre les rochers qui m'environnaient. Je fis donc virer mon bateau en conséquence, mais la nuit survint. Je la passai sur le pont avec tous les officiers et je puis assurer qu'on ne ressentit jamais froid plus dur.
Yves-Joseph de Kerguelen racontant la découverte en 1772 de l'archipel qui porte aujourd'hui son nom au sud de l'océan Indien. C'était un extrait de Relations de deux voyages dans les mers australes et mers des Indes, écrit par Kerguelen. François Garde, quand Yves-Joseph de Kerguelen a découvert ces îles, il a cru découvrir un territoire accueillant. Il était envoyé là par Louis XV qui pensait trouver un vaste continent au sud des océans.
Il y avait un consensus parmi tous les savants de l'époque sur l'existence d'un continent austral, mais pas le continent antarctique tel qu'on le connaît, mais d'un continent austral, c'est-à-dire plus à des latitudes relativement tempérées et donc utiles, où on aurait pu faire des choses. Et donc c'est James Cook qui, en allant naviguer très très au sud, en passant le cercle polaire antarctique, a démontré que ce continent n'existait pas. Kerguelen, lui, quand il est arrivé sur cette île, a pensé d'abord que c'était, non pas que c'était une île, mais que c'était une pointe de ce continent. Ouais. Et puis, effectivement, quand il est rentré à Versailles, il a fait une description qu'il avait pris avec la réalité certaines libertés. Il racontait qu'il y avait des diamants, des habitants.
Ouais, il a survendu sa découverte. Hein.
Et donc, évidemment, il a été aussitôt couvert de gloire et d'honneur. Mais il s'est fait beaucoup d'ennemis et les autres officiers allaient à Paris dans les salons en disant mais pas du tout, c'est beaucoup plus triste que l'Islande, il y a rien à y faire, etc. Du coup le roi Louis XV lui a dit allez retournez-y donc et faites-moi un deuxième rapport, et le deuxième rapport a été effectivement sans espoir, et Kerguelen a été condamné à la prison pour avoir pris autant de liberté avec le roi.
Ouais. Vous avez eu une pensée pour les découvreurs de ces lieux qui se les sont appropriés lorsque vous traversez notamment la plage de la Possession à l'extrême sud de l'île. Vous imaginez ce qui a pu se passer sur cette plage? Quel était le protocole à suivre pour s'approprier un territoire à l'époque?
Alors, selon les instructions qui étaient données à l'époque, le chef d'expédition restait à bord, donc Kerguelen n'est pas descendu de son bateau. Il envoyait un jeune officier avec une chaloupe qui prenait possession au nom de la France et qui mettait une bouteille avec un parchemin, avec un petit message, et puis trois louis d'or pour montrer que c'était la France. D'ailleurs, il l'a fait sur la plage de la Possession, et puis il l'a fait 2 ans plus tard sur la côte nord, et lorsque James Cook est passé 2 ans après, il a retrouvé la bouteille de Kerguelen. Mmh. Donc, on les cachait pas, on les mettait en évidence pour que si un nouveau navigateur arrivait, il tombe dessus. Donc, je me suis demandé... si j'étais ce jeune officier, où est-ce que je mettrais ma bouteille, avec peut-être un signal, un tas de pierres, quelque chose pour attirer l'attention? Et oui, il y a une seule réponse à cette équation, et je sais où c'est.
C'est ça, hein. Mais alors parce que ça n'a jamais été déterré, les louis d'or sont encore enfouis.
Les louis d'or, ils sont toujours, la bouteille bien sûr n'a probablement pas résisté, mais les louis d'or et le goulot, enfin le seau de plomb sur la bouteille sont toujours là-bas. Je vois pas où c'est qu'ils pourrait être ailleurs. Donc, est-ce qu'il faut aller monter une expédition très compliquée pour aller repêcher ces plus de 3 louis d'or, ou est-ce qu'il faut les laisser dormir pour le prochain million d'années? Ouais. Je serais plutôt sur la deuxième thèse.
Ouais, ouais. Alors, en tout cas, quand vous y passez, vous regardez très précisément l'endroit où, pour vous, ça ne fait aucun doute, ils ne peuvent être que là. Vous le dites même pas à vos 3 compagnons de route.
Oh,
vous le gardez pour vous.
Imaginez qu'il y en a un qui se mette à gratter. Non, il y a une espèce de terrasse naturelle qui a l'air d'avoir été faite de la main de l'homme. Donc c'est évidemment là que et suffisamment en arrière pour ne pas être emporté par les tempêtes. Mmh. C'est très probablement là que le. Mais on saura jamais.
Et il y a toute une réflexion sur la possession. Qu'est-ce que ça signifie de posséder, que ce morceau de terre soit français au hasard des découvertes au XVIIIe siècle?
Oui, il y a d'autres îles dans le subantarctique qui étaient anglaises et qui sont maintenant sud-africaines, australiennes, néo-zélandaises. Et la France a les siennes, par hasard, si je puis dire, sans avoir jamais trop su quoi en faire. On fait de la recherche scientifique depuis les années 50, mais sur le 19e siècle et la première moitié du 20e, on faisait rien, ouais. On s'en occupait pas du tout. Et qu'est-ce que ça veut dire être français ? C'est quoi la France ? Quand je suis au fin fond de Kerguelen, est-ce que je suis autant en France que quand je suis à la maison de la radio ? Est-ce que la France, ça se décline c'est un absolu ? Est-ce que ça se décline par marche descendante ? Enfin, ça pose des tas de questions intéressantes. Et moi, je me suis senti très fier de me dire la France, ça va jusque-là, jusqu'à 49 degrés sud, quand on est tout à fait au sud de l'île, que je mets mes chaussures dans la mer et je ne peux pas aller plus loin. Je dis voilà, le point le plus nord de la France, on est quelque part du côté de Dunkerque, et le point le plus sud de la France, c'est ici.
Alors on est en France, on est aussi chez les Manchots, hein, et qui étaient là bien avant nous, qui y sont restés. En 1959, l'année de votre naissance, François Garde, les Manchots de Kerguelen se faisaient déjà entendre sur la RTF dans ce reportage de Jacques Carion.
En allant vers le cap Ratmanoff, sur la côte est, à environ une quarantaine de kilomètres de Port-au-Français, on trouve une immense roquerie de manchots royaux. Écoutez bien ces cris bizarres où la voix des jeunes se distingue nettement de celle des adultes. Pour le moment, ils se familiarisent avec nous. Ils viennent là, tout près, ils font certes, mais s'enfuient dès que vous étendez la main. Cependant, si vous avez un peu de patience, l'un de ces aristocrates consentira à se laisser caresser. Puis il repartira en se dandinant avec beaucoup de dignité.
Vous les avez entendus, ces manchots, vous les avez vus aussi, François Garde.
Et on les a reniflés, parce qu'il y a une odeur de poulailler très forte.
Ah oui, voilà, ça c'est là, on n'avait pas l'odeur. Et ils vous ont fait une frayeur, ces manchots, parce que vous étiez déjà venu, lorsque vous étiez administrateur des terres australes et antarctiques françaises, dans ces lieux. Vous vous souveniez d'une plage immense, avec une population très dense de manchots, et là vous y retournez, et vous en voyez très peu. Et oui, vous êtes même surpris de l'émotion que ça suscite.
Voilà, je suis pas biologiste, je suis juste observateur, si je puis dire. Et en tout cas, ce que je sais, c'est que c'était à peu près à la même période de l'année et que la population de manchots avait diminué d'au moins un tiers. Et ce qui m'a beaucoup surpris, c'est ma propre réaction. C'est-à-dire, ça m'a vraiment scié les pattes. Je me suis assis, j'avais pris un grand coup dans la tête et j'ai mis un peu de temps à repartir. Parce que je comprenais pas, un tiers, c'est énorme sur une population. Alors, est-ce que c'est cyclique? Est-ce qu'il y a des bonnes années, des mauvaises années, des années de vaches grasses et des années de vaches maigres? Je n'en sais rien. C'est pas mon métier. Je vais pas m'aventurer sur des domaines qui ne sont pas les miens. Mais moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est ma propre émotion, ma propre tristesse à l'idée que ces oiseaux, tout d'un coup, il en manquait un tiers à l'appel. Alors, c'est une vision subjective, encore une fois. Peut-être que c'est un cycle ou je ne sais quoi. Mais comme je ne m'y attendais absolument pas, je veux dire que j'ai été assez secoué.
Et cette longue marche de 3 semaines est l'occasion évidemment de regarder ces populations animales qui évoluent sur l'île. C'est aussi l'occasion de vous livrer, c'est un chemin assez introspectif en fait, ces 3 semaines. Vous y faites référence à de nombreuses choses. Lorsque vous passez près d'un lac, le lac Suzette, vous pensez à votre mère, vous vous demandez est-ce que j'ai été un bon fils. Ça a été l'occasion de vous poser des questions très intimes.
Oui, parce que quand on marche, eh bien, le cerveau ne s'arrête pas de s'occuper. Et donc, le moindre accident du relief, le moindre nom, le moindre incident, tout d'un coup déclenche des réflexions. Et moi, j'essayais de toutes les noter. Alors, elles sont pas toutes dans le livre parce qu'il y en aurait eu trop. Mais celles qui me paraissaient le plus pertinentes, au contraire, les plus absurdes, c'est ça qui se passait dans ma tête. Moi, ce que je voulais raconter, c'est pas une expédition de 4, je parle assez peu de mes 3 compagnons, même si je les aime beaucoup. J'ai voulu surtout voir ce que cette île me, comment cette île me transformait, comment je résistais ou je m'adaptais à ces conditions d'inconfort, de température, de vent, de nourriture monotone, de couchage à la dure, et en même temps l'imaginaire qui ne cesse de gambader et de partir dans les directions les plus incongrues.
Et la place de l'écriture, François Garde, dans cette aventure, tous les soirs, hein, vous écriviez dans votre carnet, même quand vous n'écriviez pas, lorsque vous marchez, vous pensez à ce que vous allez écrire, à la façon dont vous allez le raconter, ça change le regard, la façon même de vivre l'instant quand on sait qu'il faudra raconter ensuite.
Oui, parce que moi je ne suis pas journaliste, je ne sais pas faire de photographier l'instant pour le restituer, pour le rendre compte. Alors, la différence du journaliste, c'est que je n'ai pas de délai pour rendre ma copie, mais c'est quand même ça. Si je ne me souviens pas de ce qui s'est passé dans la journée, je ne pourrais rien raconter. Donc il a fallu que je forge peu à peu une petite discipline pour me souvenir des moments marquants de la journée, qui peuvent être le franchissement d'un col, le passage d'une rivière, l'arrivée sur un fjord, mais qui peuvent être aussi, encore une fois, une réflexion qui part dans des directions tout à fait inattendues. Et ça, tout le soir, quand les autres sous la tente, on va dire, étaient un peu capoutes, ben moi, j'avais, à leur grande surprise, d'ailleurs, je trouvais assez d'énergie pour gratter pendant une heure et demie dans mon carnet.
En 30 secondes, pour terminer, cette marche a eu lieu il y a 5 ans. Cette île vous a hanté pendant une vingtaine d'années. C'était un rêve, c'était l'endroit sur Terre qui vous fascinait le plus. Vous savez, une fois que vous avez terminé votre marche, que vous n'y retournerez sûrement plus jamais.
En tout cas, pas dans ces conditions-là, oui.
Ouais. Et du coup, c'est un rêve derrière, c'est un fantasme qui est retombé.
Du coup, si demain je peux prendre l'avion, elle m'a rendu frais à y retourner, je fais mon sac tout de suite.
Donc le vous êtes toujours aussi aimanté, le charme n'est pas rompu parce que vous avez traversé cette île.
Non, ça donne encore plus envie. On sait que chaque voyage ou chaque balade sera différente des précédentes, ira dans de nouvelles vallées, dans de nouveaux décors. Donc on n'a jamais fait le tour de Kerguelen.
Merci François Garde. Marcher à Kerguelen, tel est le titre de votre récit paru chez Gallimard. Et il vient d'être réédité, enrichi des photographies de vos deux compagnons de marche photographes, Michael Charavin et Bertrand Lessort. Nous avons mis quelques-unes d'ailleurs de ces photos sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Restez avec nous, François Garde, dans un instant. Nous allons plonger à la rencontre des requins en compagnie d'un biologiste qui les a étudiés dans tous les océans, Johan Mourier.
La merde quand t'es pas là, c'est pas sans tes bas, j'passe tant que t'es là, j'passe tant que ça, j'ai la merde, tu comprends pas. Je veux pas de toi, non, je veux pas de toi. Mais c'est pas personnel, les autres sont plus belles. J'suis sous Jack sous miel, quand tu sois à peine. Mais c'est pas personnel, les autres sont plus belles. J'suis sous Jack sous miel. Tu sois bien, c'est pas personnel.
Merde. Bon bah vas-y, on le fera après ça.
Je sais que tu me plais pas, en vrai je pas confiance en moi. C'était belle, je parlerai pas. Donc si t'es belle, mon casse-toi. Je ne suis jamais vraiment moi. Pas brûlé, ça compte pas. Je les compte sur mes doigts. Donc ne prends pas pour toi. Pas pour toi, non. Pas pour toi. Yeah. Mais c'est pas personnel. Les autres sont plus belles. J'suis sous Jack sous miel. Quand tu sois à peine. Mais c'est pas personnel. Les autres sont plus belles. J'suis sous Jack sous miel. Quand tu sois à peine. Mais c'est pas personnel. Pas personnel. Personnel. Pas personnel, mais c'est pas personnel. Pas personnel, personnel, pas personnel, mais c'est pas personnel.
c'était Monsieur Giscard qui chantait « Pas personnel » et la programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Muriel Pérez.
Sur France Inter, le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
De nuit, les requins sont exclusivement concentrés sur leur chasse. Et ils semblent beaucoup plus actifs, même agressifs. Nous constatons qu'ils ne forment plus un mur de requins, mais qu'ils sont tapis sur le fond, ils grouillent sur le fond. Et pour les approcher, nous avons dû refouler nos peurs ancestrales, nos réflexes de fuite. Et c'est pas évident lorsqu'ils viennent nous percuter à pleine vitesse. Mais après 4 ans à s'habituer, à comprendre que nous ne sommes pas des cibles et seulement des obstacles, alors on pénètre au cœur de la meute.
Le plongeur naturaliste Laurent Balesta dans un extrait du documentaire « 700 requins dans la nuit ». Bonjour Johan Mourier.
Bonjour.
Vous êtes biologiste, spécialiste des requins. Vous travaillez actuellement dans la station marine Stella Mar en Corse. Et vous venez de publier aux éditions Quae 40 idées fausses sur les requins. La préface de votre livre est signée justement par Laurent Balesta que l'on vient d'entendre. Et vous avez été vous-même conseiller scientifique sur ce documentaire « 700 requins dans la nuit ». Et vous avez participé à ces plongées en Polynésie au milieu de ces gigantesques rassemblements de requins gris. Quels souvenirs vous gardez de ces plongées, Johan Mourier?
C'est un spectacle assez unique, assez magnifique. C'est tout d'abord une descente un peu dans la pénombre, puisque ce sont des plongées de nuit, donc ils chassent la nuit. Et en descendant, en s'approchant petit à petit du fond, on s'aperçoit que tout c'est un tapis de requins qui grouillent, de plusieurs centaines de requins qui grouillent au fond. Et en s'approchant un peu plus, on s'aperçoit qu'ils sont en train de chasser. Ouais. Et là, donc au début, on n'osait pas trop descendre... on reste un peu à distance et petit à petit, au cours des missions des plongées, on s'est approché jusqu'à presque faire partie du groupe et à se faire tamponner, comme on l'entend dans l'extrait.
Ouais. Mais alors, pour ces requins, Johan Mourier, vous ne constituiez ni une proie, ni un danger. Vous n'existiez pas.
Voilà, j'aime bien l'image que Laurent utilise. C'est, on était vraiment des obstacles. Donc, quand ils nous rentraient dedans, c'est vraiment que lors d'une action, on les gênait, ils nous tapaient dedans. Mais on s'est jamais fait mordre, on n'a jamais fait partie. En fait, on n'a jamais été considéré comme une proie.
Alors, tout l'objet de votre livre, Johan Mourier, c'est justement rétablir quelques vérités au sujet de ces requins que l'on connaît mal et qui sont l'objet de bien des fantasmes. Il y a d'abord une grande diversité de requins. Combien d'espèces de requins connues à ce jour?
Alors, il y en a chaque année un peu plus, mais on est environ à un peu plus de 500 espèces de requins.
Ouais. Et sur ces 500 espèces, 10 seulement sont impliquées dans des accidents mortels qui sont très rares.
Voilà, c'est quelque chose qui est très rare. On n'a qu'une dizaine d'espèces, dont 3 qui occupent la grande majorité des cas d'accidents et de morsures sur l'homme.
Oui, donc prenons le temps de voir un peu la grande famille. Il y a déjà des requins, pas uniquement dans les eaux chaudes, hein, il y en a aussi dans les eaux froides de l'Arctique. Le requin du Groenland qui vaut le détour, à quoi ressemble-t-il et quelles sont ses caractéristiques?
Alors c'est un requin qui est très lent, assez rond, assez peu effilé. Et qui est très lent. Et il a un métabolisme, il vit dans des eaux qui sont comprises entre 2 degrés et 6 degrés environ. Et en fait, il a un métabolisme au ralenti. Donc, il va être lent, il va grandir très lentement. Mmh. Et justement, il va même, c'est un des requins qui est le plus vieux au monde.
Ouais.
Il peut atteindre entre 200 et jusqu'à 400 ans.
Ah oui.
C'est le vertébré le plus vieux au monde.
Oui, c'est ça, une longévité de 400 ans. Et chez les requins, puisqu'on est dans les records, les plus gros ne sont pas les plus dangereux pour l'homme. Un exemple avec le requin baleine, qui est le plus gros des requins. Mais on ne risque rien à nager avec un requin baleine.
Oui, c'est le plus gros des requins et même le plus gros des poissons, puisqu'il peut atteindre jusqu'à 18 mètres de long. Mmh. Et donc c'est un requin qui mange du plancton. Donc il va vraiment, on n'a aucun risque avec lui. Le seul risque qu'on peut avoir, c'est si on s'approche trop près et que qu'on prend un coup de nageoire ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment un risque très faible.
Et c'est aussi le cas du requin pèlerin. Alors le requin pèlerin, on peut le croiser sur les côtes de la métropole, en tout cas en Méditerranée?
Oui, tout à fait, en Méditerranée, comme en Bretagne aussi.
Ah,
chaque
oui
année en Bretagne, on les retrouve donc le long des côtes bretonnes en été, principalement. Ils viennent s'alimenter de plancton. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter l'association APEX qui les étudie.
Et là aussi, on ne craint rien. Pourtant, je crois que dans le cas du requin pèlerin, on a déjà fermé des plages en les voyant approcher. Il faut imaginer quand même ces animaux nagent au ras de l'eau avec l'aileron qui ressort et puis la bouche grande ouverte pour filtrer le plancton. Ça peut être impressionnant.
Voilà, c'est un animal qui peut atteindre jusqu'à 12 mètres quand même.
Ouais.
Donc forcément, proportionnellement, l'aileron va être assez grand et le voir avancer pour des gens qui sont pas forcément informés, ça peut faire peur en effet. C'est un requin qui filtre du plancton au même titre que le requin baleine et il y a vraiment aucun risque.
On a déjà croisé des requins blancs, des grands requins blancs sur les côtes de la métropole.
Oui, tout à fait. Les grands requins blancs sont présents en Méditerranée, malheureusement de moins en moins. Mais il y a eu plusieurs coups de pêche, notamment sur les côtes françaises, au large de Sète ou au large de Marseille, avec des requins qui font d'ailleurs jusqu'à près de 6 mètres de long, un peu moins de 6 mètres de long.
Alors ces requins d'ailleurs, on a tendance à leur prêter des sens qu'ils n'ont pas, en tout cas on exacerbe un peu leur capacité, parce que c'est une des idées reçues à laquelle vous tordez le cou dans votre ouvrage, Johan Mourier. Une goutte de sang dans la mer ne suffit pas pour attirer des requins à 2 km à la ronde.
Non, alors les requins ont des sens assez développés, donc ils sont capables de détecter potentiellement une goutte de sang dans beaucoup d'eau. En revanche, le sang est vraiment une substance qui va se dissoudre très rapidement dans l'eau et ça va pas être très efficace pour répandre en fait à une grande distance l'odeur du sang. Mmh. Alors ce qui marche le mieux, c'est plutôt des matières grasses. Comme de l'huile, de sardines ou des choses comme ça qui peuvent plus les attirer.
Oui, pour attirer les requins blancs. Mais a-t-on vraiment envie de les attirer?
Non, mais...
c'est pas forcément sûr.
Pas vraiment.
Le requin blanc n'est pas tout en haut de la chaîne alimentaire. Hein. Il a lui aussi des prédateurs.
Alors lui aussi, il a des prédateurs en dehors de l'homme, bien sûr, mais il a des prédateurs, notamment les orques,
ouais,
qui eux s'attaquent à de nombreux requins et notamment aux grands requins blancs. Donc et même en général, donc par exemple sur les côtes sud-africaines ou même de Californie, il y a eu plusieurs observations de requins blancs qui fuient à l'arrivée donc de groupes d'orques.
Donc ils ne sont pas les plus dangereux ou en tout cas les plus hauts dans la chaîne alimentaire. Et puis il faut rappeler ce que vous faites dans votre ouvrage, c'est que finalement les plus gros prédateurs des requins, ce sont les humains. Johan Mourier.
Voilà, tout à fait. Alors une estimation donne à plus de 100 millions de requins prélevés chaque année. Là, on a un rapport récent qui est sorti et qui montre qu'en 50 ans, on a fait diminuer de 70% les populations de requins pélagiques dans le monde. Et donc, l'homme a vraiment un impact très fort sur les populations de requins.
Donc,
on en tue beaucoup plus que eux nous
oui
tuent.
Oui, c'est sans commune mesure. Hein. 100 millions de squales tués par les pêcheries chaque année, alors que le nombre d'accidents en moyenne par an, Johan Mourier?
On est environ à une cinquantaine, on va dire, de morsures pour moins d'une dizaine de fatales. Donc, moins d'une dizaine de morts dues aux morsures de requins.
Bon, voilà. Alors, si on veut se réconcilier avec les requins, Johan Mourier, je rappelle le titre de votre ouvrage, très bien documenté aux éditions Quae, « 40 idées fausses sur les requins ». Un grand merci à vous, Johan.
Merci à vous.
Le temps d'un bivouac replie sa tente. Pour réécouter cette émission, il y a les podcasts. Pour nous laisser un message, eh bien, il y a la page Facebook du temps d'un bivouac ou la page de l'émission sur franceinter.fr. Et on se retrouve demain pour de nouvelles aventures.
Et dans un instant, le rendez-vous de 17h avec Frédéric Sigrist et ses blockbusters. Bonjour Fred.
Bonjour Daniel.
De quoi nous allons parler avec vous aujourd'hui?
Aujourd'hui, on va faire un petit tour du côté de la Corée, non pas du Nord, mais du Sud. On va parler du phénomène K-pop avec BTS, Blackpink, ça va danser.
Ouais, ça va danser.
Ça va danser.
À tout de suite.